Mais ça a vraiment bien, ça s'est vraiment bien été. J'aimerais ce matin de regarder avec vous une histoire ou un projet de rénovation qu'on retrouve dans la Bible et qui nous démontre des vérités qui sont très importantes concernant l'état des bâtiments qui appartiennent au Seigneur et aussi la manière que Dieu voudrait que nous entreprenions des projets dans notre vie. Et puis, ça peut peut-être vous surprendre ce matin, mais dans la Bible, on voit des projets de rénovation et de reconstruction aussi. Et en fait, il y en a, ça arrive assez souvent, il y en a plusieurs dans la Bible. Puis je crois vraiment que le Seigneur, vous savez, que c'est important. Aux yeux de Dieu, l'état de notre bâtiment. Et Dieu s'intéresse aux projets de rénovation puis de reconstruction lorsque nous le faisons pour la bonne raison, lorsque nous le faisons pour la gloire de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Et c'est ça que je veux voir avec vous en regardant l'histoire de la rénovation des murs de la ville de Jérusalem dans le livre de Néhémie. Et puis, juste vous laisser savoir. Dans Néhémie, le chapitre 6, versets 15 et 16, je veux commencer en lisant ces versets-là. Ça nous dit ceci. Ça dit, la muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Et ça nous dit ici que lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à la bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Alors, et ici, là, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais ici, là, ça nous dit, en 52 jours, en moins de 2 mois, les murailles de la ville de Jérusalem avaient été reconstruites. Et c'était tout un exploit, vraiment, que ça a pu se faire dans ce temps-là. Et puis, en fait, même avec les ennemis qui mettaient de l'opposition à travers des problèmes qu'ils avaient rencontrés, et les gens autour de Jérusalem, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, waouh! Ils ont dit, ce projet-là s'est vraiment accompli avec l'aide de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et ils ont donné gloire à Dieu. On peut voir ceci. Et puis, en fait, vous savez, il y a des projets de rénovation qui peuvent vraiment servir à la gloire de Dieu. Et je crois vraiment que ce projet-là, ici, qui a été fait, ça a été fait pour la gloire de Dieu. Aussi, ici. Et puis, j'aimerais juste lire quelques autres versets. Je veux voir 3 vérités avec vous ce matin concernant les projets de rénovation qui peuvent servir à la gloire de Dieu. Mais j'aimerais premièrement, hey, j'ai de la misère avec cette manette-là, ça n'a pas de bon sens. OK. J'aimerais que si vous avez votre Bible, on va lire dans Néhémie le chapitre 3. On va lire verset 1 jusqu'au verset 8 ensemble. Puis, je pense que ça va vous faire penser à quelque chose. Ce matin, vous savez, vous pouvez le suivre dans votre Bible ou vous pouvez suivre ici. Ça nous dit ceci. Ça dit, Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. À côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zaccur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akhoz. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérékia, fils de Meshézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Banaha. OK. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jodada, fils de Pessac, et Meshulam, fils de Besaïa, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Mérodite. Les hommes de Gabaon, de Mitzpah, ressortirent au siège de gouverneur à côté de ce fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Akazia, entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Il laissait à Jérusalem jusqu'à la muraille large. Et ça continue tout le chapitre. On ne lira pas tout le chapitre, OK? Mais lorsque nous lisons ceci, lorsque on lit ce texte-là, là, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ça vous fait-tu penser à quelque chose qui s'est produit dans les dernières semaines au Centre Nouvelle Vie? Hein? C'est ça, moi, je veux dire. Éric et Robert se levèrent. Et Terry et Donna bâtirent la section droite. Hein? Et Lionel et Magella. Hein? Pierre et Wayne et Terry, puis Fern et Roland. Hein? Ted et Allison et Bernard et... Et Arthur, et Monique, et toutes les autres. Et les femmes apportèrent du gâteau et Fern a fait du café. Mais vous savez, quand je lis ce passage-là, là, ça me fait penser, je trouve que ça me fait penser à qu'est-ce qui s'est passé ici les dernières semaines. Amen. C'est biblique, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qui s'est produit. Amen. Et... qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire qu'on voit dans la Bible? Vous savez, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que cette histoire-là soit écrite dans la Bible? Le livre de Néhémie, vraiment une grosse partie du livre de Néhémie dans la Bible, c'est écrit. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce soit écrit dans sa parole pour nous aujourd'hui? Il y a trois choses que je veux voir avec vous ce matin. Je pense que Dieu voulait nous dire. Et la première, c'est celle-ci. C'est que la condition des bâtiments qui appartiennent à Dieu ont de la valeur à ses yeux. La condition des bâtiments qui appartiennent à Dieu a de la valeur à ses yeux. Ici, vous savez, juste pour se situer dans le contexte, là, Néhémie, le livre de Néhémie, c'est le dernier livre historique de l'Ancien Testament. Et ça raconte l'histoire d'un troisième groupe de Juifs qui avaient été exilés à Babylone et qui ont décidé de retourner à Jérusalem pour bâtir les murs de la ville. Et le livre de Néhémie, ça nous raconte comment, oui, la rénovation, la reconstruction de ces murs-là a été réalisée. Ça nous raconte aussi le réveil spirituel qui s'est produit après la rénovation. Et on prie pour que le réveil vienne ici aussi. Amen. Et ça nous raconte aussi le renouvellement de l'Alliance, comment le peuple s'est reconsacré à Dieu. Ça nous raconte les résolutions qu'ils ont entreprises pour l'entretien de la maison de Dieu aussi, et aussi la dédicace des murailles. Vous pouvez lire le livre au complet. Mais juste pour vous dire, la raison pourquoi les murs avaient été détruits, les murs de Jérusalem avaient été détruits, vous savez, c'était à cause de la désobéissance et des péchés du peuple. Si vous connaissez l'histoire, Dieu avait permis que le peuple soit livré entre les mains de ses ennemis et que le temple et les murs soient détruits. Et c'est arrivé en 586 avant Jésus-Christ. Mais Dieu avait promis qu'il délivrerait son peuple. Et finalement, oui, après plusieurs années où la ville et le temple étaient détruits, Dieu a permis qu'il y ait un roi, en fait c'est le roi Cyrus des Mèdes et des Perses, que Dieu a mis dans son cœur de libérer les Juifs et leur dire, gardez, là, allez reconstruire le temple, allez reconstruire votre ville. Et en 538, le Zorobabel avait conduit un premier groupe d'exilés et ils avaient recommencé la construction du temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Lorsqu'ils ont retourné, la première chose qu'ils ont commencé, c'est qu'ils ont commencé à reconstruire le temple. Et c'était la volonté de Dieu que la première chose que le peuple devait faire lorsqu'il retourne, c'était de rebâtir le temple, la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça va jusque-là? OK, on n'est pas rendu aux murailles encore. Là. On parle du temple ici. Et ils ont commencé à rebâtir le temple lorsqu'ils y ont retourné. Mais malheureusement, après un certain temps, ils se sont découragés. Et ils ont commencé à négliger la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et Dieu leur a envoyé un prophète, le prophète Agée, en fait, pour leur dire qu'il fallait qu'ils prennent soin de la maison de Dieu. En fait, le peuple, vous savez, avait commencé, après un certain temps, à s'intéresser plus à leur propre maison qu'à la maison de Dieu. Et le prophète Agée leur a rappelé l'importance de donner la priorité à la maison de Dieu s'ils voulaient voir la bénédiction de Dieu sur leur vie. Êtes-vous avec moi? Et voici ce que le prophète Agée a dit, le message qu'il a adressé au peuple. C'est assez... c'est un bon message. Ça dit, dans Agée 1, au verset 1 à 8, dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, les bêtes demeures, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Et on pourrait continuer. Mais le message ici, en fait, que Agée dit, que Dieu disait à son peuple, regardez là, tu sais, c'est un message là, faut bien le saisir là, comprenez-moi bien là. Mais c'est un message, c'est que le peuple, à un moment donné, le peuple, il prenait soin de leurs affaires, mais il ne prenait plus soin de la maison de Dieu. C'était comme c'était rendu, c'était pas important. Et il y avait de la misère, le peuple avait de la difficulté dans plusieurs choses, et Dieu voulait leur ramener les priorités à la bonne place. Vous êtes avec moi? Et nous voyons ici une vérité très importante dans les Écritures, pour chacun de nous, vous savez. Dieu voulait bénir son peuple. Dieu veut toujours bénir son peuple. Dieu, il n'est pas cheap. Amen? Il n'est pas cheap, pas du tout, puis ça lui fait plaisir de bénir son peuple. Mais le peuple devait donner la priorité à Dieu pour être béni. Et vous savez, pour être réellement béni et apprécier tout ce que nous avons dans la vie, puis pour ce que nous recevons, que nous puissions vraiment en recevoir toutes les bénédictions, il faut donner à Dieu la priorité dans notre vie, la première place. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte, le respect, l'obéissance à l'Éternel. Et la meilleure décision que nous pouvons faire dans notre vie, c'est de donner à Dieu la première place dans toutes nos affaires. Amen. Dans nos finances, certainement, d'apporter à la maison de Dieu nos dîmes et nos offrandes, c'est un principe de Dieu qui est dans la parole de Dieu et c'est ce que nous devrions faire afin que les choses matérielles ne deviennent pas un dieu dans notre vie, mais qu'on puisse profiter de tout ce que Dieu nous donne en honorant Dieu pleinement. C'est un principe que nous voyons. Et de lui donner la première place, en fait, oui, dans nos finances, dans nos temps, dans nos activités. Puis voyez-vous, ici, dans cette histoire-là, en recherchant à rebâtir le temple de Dieu, premièrement, le peuple démontrait qu'il accordait la priorité au Seigneur dans leur vie. Et Dieu promettait de bénir le travail de leurs mains. Et la reconstruction du temple, vous savez, c'était une manière concrète de dire à Dieu, « Tu as la première place dans notre vie, tu as la première place parmi nous. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ça va bien? OK. Et sous la direction de Zorobabel, avec l'aide des prophètes et avec Esdras par la suite, finalement, le peuple ont complété la reconstruction du temple. On le voit ici. Et la condition du temple, c'est ça que je veux qu'on saisisse, une construction physique et matérielle était importante aux yeux de Dieu. C'était important, vous savez, aux yeux de Dieu, parce que c'était principalement une affaire de cœur. Et c'est parce que Dieu démontrait que leur cœur, le cœur du peuple était premièrement tourné vers Dieu. Et c'est notre cœur que Dieu désire, bien plus que nos choses matérielles. Tout appartient à Dieu. Dieu n'a pas vraiment besoin de nos choses matérielles. Mais c'est notre cœur qu'il veut. Et lorsque nous l'honorons avec nos biens matériels, nous démontrons que Dieu, tu as la première place dans notre vie. Amen. OK. Et là, le temple est reconstruit. Mais ce n'est pas la fin. Il y avait les murs de la ville aussi qui étaient détruits, là. C'est ça. T'sais? Et on parle, le temple, la construction du temple avait été terminée, nous croyons, environ dans les années 516 avant Jésus-Christ. Et ça faisait un bon bout de temps que les murs étaient encore détruits, vous savez. Et les murailles d'une ville, à cette époque-là, ça représentait le pouvoir, la protection, ou ça représentait aussi l'honneur de son Dieu. C'est quand les murailles étaient bien, que la ville était bien protégée. Et les murailles de la ville, c'était nécessaire pour protéger le peuple qui demeurait là, et aussi le temple des attaques, c'était pour assurer la continuité de l'adoration de Dieu. Donc, les conditions des murs d'une ville, c'était important pour l'honneur d'une ville et de son Dieu. Ça va? Et c'est la raison pourquoi est-ce que Néhémie a entendu vraiment qu'est-ce qui se propageait à Jérusalem et que les murs étaient tous détruits encore, Néhémie, en fait, ça l'a touché profondément. Et finalement, j'aimerais qu'on puisse lire sa réaction. Ça l'a touché profondément parce que l'honneur de son Dieu était en question ici. Et j'aimerais qu'on puisse lire, si vous avez votre Bible encore, vous savez, on va lire dans Néhémie le chapitre 1, on va lire le verset 2 et 3. Ça nous parle de, ici, la réaction de Néhémie lorsqu'il a entendu. Ça nous dit, « Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. » C'est des gens qui étaient là-bas, qui ont revenu, parce que Néhémie, juste dans le contexte, Néhémie, il n'est pas à Jérusalem, là. Il est encore à Suse, loin de Jérusalem. Ça va? OK, je sais. Pour les gens qui sont moins familiers avec l'histoire, c'est peut-être un peu plus difficile à suivre, là. C'est pour ça que j'explique. Mais avec un groupe d'hommes de Juda, et là, Néhémie, il dit, je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Vous savez, les gens qui ont revenu de Jérusalem puis qui ont arrivé, ils ont dit, la muraille est encore détruite, détruite par le feu, ses portes sont détruites. Vous savez, c'était très humiliant pour un peuple d'avoir ses portes et ses murailles détruites par le feu. C'est ça que je veux qu'on saisisse ici. C'est un peu, vous savez, comme lorsque vous passez devant une maison ou un chalet ou une construction, puis vous voyez, vous savez qu'il y a la clôture est brisée, le toit est brisé. Les choses sont un petit peu toutes à l'envers. C'est quoi votre première pensée qui arrive, qui se passe dans votre tête, là? C'est abandonné. C'est ça. Je marchais cette semaine dans le coin de Grandigue, là, à Casey Cape. Là. Je prenais des marches, puis il y a vraiment des beaux chalets. Tu sais, puis je marchais là, puis j'ai vu, hein, il y avait un chalet. Boys! ça gardait pas trop bien, là, disons. Là, il y avait... ma première pensée, c'était, les propriétaires ne prennent pas trop soin de leur chalet. T'sais. Écoutez, là, je ne suis pas ici pour les juger non plus. Puis il y a des raisons pourquoi est-ce que les choses, des fois, il y a des raisons. Puis ça m'arrive, moi aussi, des fois, que j'ai des coins là, qui auraient besoin de peinturer ou des choses comme ça. Là. Comprenez-moi bien. Là, ça fait que je ne suis pas ici. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, hein? C'est que, tu sais, des fois, tu te demandes, tu sais. Puis lorsque les gens, là, ils voyaient Jérusalem, là, la ville, là, avec les murs toutes débâties, là, hein, veut pas, là, tu sais, il y avait cette pensée-là aussi, de dire, ben, tu sais, leur Dieu, là, il n'est pas si fort, il n'est pas si glorieux que ça, tu sais, c'était un petit peu... Et c'est la raison pourquoi est-ce que lorsque Néhémie a entendu la nouvelle, là, que les murs étaient en ruine, là, ça l'a attristé pour l'honneur de son Dieu. Vous êtes avec moi? Tu sais, et puis, c'est pourquoi, vous savez, c'est pourquoi nous pouvons dire, c'est que la condition de nos bâtiments qui appartiennent à Dieu, ont une valeur aux yeux de Dieu. C'est quand même une valeur importante, vous savez. Et c'est sûr qu'il ne faut pas en faire une idole ou notre seule priorité extrême. Tu sais, qu'il faut avoir un bâtiment, un château, tu sais. Non, mais ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous permet d'avoir, tu sais, nous devrions en prendre soin pour son honneur, pour sa gloire. Et oui, la condition de notre bâtiment, c'est un témoignage pour l'honneur de Dieu. Et on le voit dans la parole de Dieu. C'est ça. Et ça, c'est une chose que nous voyons dans le livre de Néhémie. Et il y a une autre vérité que je veux qu'on puisse découvrir dans le livre de Néhémie, et c'est celle-ci. C'est que la prière et l'action sont nécessaires dans la réalisation d'un projet. La prière et l'action sont nécessaires dans la réalisation d'un projet, que ce soit un projet de rénovation, que ce soit un projet dans notre vie. OK, on revient à Néhémie. Okay. Néhémie était encore déporté, lui-là. Il était en Babylonie, OK, là, à Suse. Lorsqu'il apprend la condition des murailles de la ville de son Dieu, qui aimait son Dieu, il a entendu le mépris, ça l'a grandement touché. Ça l'a grandement touché parce que le déshonneur de son Dieu, là, ça ne résonnait pas bien dans son cœur. Ça ne résonnait pas bien. Il n'était pas indifférent à ce que le monde pensait de son Dieu. Son Dieu méritait beaucoup plus que ça. Puis j'aimerais qu'on puisse lire quelques versets encore dans Néhémie 1 au verset 4, sa réaction. Qu'est-ce qu'il a fait, Néhémie, maintenant? Néhémie 1, versets 4 à 6. Ça dit ceci. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » On va arrêter ici. Vous pouvez lire le restant du chapitre, si vous voulez. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que lorsque Néhémie a entendu ces nouvelles, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis, ça nous dit, il a pleuré, il a jeûné et il a prié de tout son cœur. C'est ça que nous voyons. Il a déclaré la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde. Il a imploré la grâce de Dieu qui puisse vraiment entreprendre, intervenir. Il a reconnu aussi, nous voyons que ce n'était pas la faute de Dieu si les choses étaient ainsi, mais c'était à cause de la désobéissance du peuple qui avait abandonné Dieu. C'est à cause des péchés du peuple. Et il s'est repenti vraiment pour lui et pour son peuple. Et on voit aussi dans ce chapitre-là que Néhémie a réclamé les promesses de Dieu, que Dieu avait dit que lorsque son peuple allait lui demander pardon puis qu'il allait revenir à lui, que Dieu avait promis de le pardonner puis de le restaurer, même de le rassembler. Il a réclamé les promesses de Dieu puis il a demandé au Seigneur qu'il lui donne du succès dans son projet. C'est un projet pour la gloire de Dieu. Et une chose vraiment remarquable lorsqu'on lit l'histoire de Néhémie, vous savez, c'est qu'il priait toujours, Néhémie. Il priait continuellement. Il ne faisait rien sans prier, premièrement. Vous pouvez lire le livre au complet, vous allez voir. Même le roi lui demandait d'un fois, « Néhémie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et le roi disait, pas le roi, mais Néhémie, ça nous dit, il priait premièrement. Puis après ça, il disait au roi qu'est-ce qu'il voulait. Il priait tout le temps devant les obstacles, les ennemis, lorsqu'il y avait des troubles qui arrivaient, des problèmes qui arrivaient. Il priait. Il priait toujours premièrement, vous savez. Et nous voyons ici aussi que Néhémie, vous savez, lorsqu'il a entendu toutes les problèmes puis les murs qui étaient détruits, il n'a pas aussitôt entrepris de partir pour Jérusalem. Non, non. Premièrement, il a prié, puis il a jeûné, puis il a demandé au Seigneur sa grâce. Savez. Et je crois que c'est vrai, c'est une bonne leçon pour nous. C'est vraiment une bonne leçon pour nous. Savez, si nous désirons réussir dans tous nos projets que le Seigneur nous appelle à faire avec lui et pour lui. Premièrement, vous savez, et nous devrions prier, que ce soit un projet de rénovation physique ou un projet de nature spirituelle pour la délivrance, pour le salut de quelqu'un, ou même dans notre vie personnelle, que nous décidons d'entreprendre un autre projet, une entreprise, une carrière, une relation, un mariage, quoi que ce soit, vous savez, c'est très important que nous, premièrement, que nous remettions ce que nous avons dans notre cœur au Seigneur, devant le Seigneur. Nous implorons sa grâce sur notre vie. C'est une bonne leçon pour nous, vous savez. Et des fois, vous savez, on peut penser, puis peut-être pas vous, là, mais moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Des fois, on peut penser que Dieu, il est là pour nous aider dans les projets, nos projets spirituels, tu sais, dans les choses spirituelles. Mais dans les choses matérielles, physiques, des fois, on pense, bien, c'est moins important, vous savez. Je me souviens lorsque j'étais directeur du camp des enfants au camp Escuminac. J'ai été directeur du camp des enfants pendant peut-être 10-15 ans, au camp Escuminac, puis directeur du camp familial. Et pendant 2 semaines, on avait à peu près une 60aine d'enfants là, qui fallait s'occuper d'eux. Puis je sais qu'il y en a plusieurs, vous avez déjà été au camp Escuminac ici. Là. Mais je me souviens, la pompe à eau a manqué souvent. Le poêle ou le frigidaire brisait. Le tracteur manquait, on avait besoin d'un conducteur pour l'autobus. C'était assez... Puis si vous me connaissez un peu, là, je ne suis pas le meilleur handyman au monde. Non, ça c'est... It's not my cup of tea, là, quand même. Mais je peux prier, par exemple. C'est ça, je peux prier. Et je me souviens que des dizaines, puis même, je dirais même des centaines de fois, vous savez, « Oh, boy, le tracteur manquait encore. » On priait. Le staff, on priait, puis enfin, on priait avec les enfants. C'est bon, mais là, on n'a pas de conducteur d'autobus. Ça, c'est arrivé. On priait. Puis combien de fois on a vu la main de Dieu intervenir? intervenir dans ces besoins-là. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait, vous savez? Ça a développé notre foi, puis ça a développé la foi dans le cœur des enfants aussi. Dieu répond vraiment aux prières, tu sais. Et à travers des choses physiques, ça fait que, simplement pour vous dire que une des vérités qu'on voit dans le livre de Néhémie, c'est que la prière, c'est très important, et Dieu répond aux prières, quels que soient les besoins que nous faisons face. Amen. Et je vous encourage à toujours prier pour vos projets, pour vos voyages. Mais une chose qu'on voit aussi, c'est que la prière, il faut que la prière soit suivie par l'action. Par l'action, vous savez. Et on voit dans la vie de Néhémie, il priait, mais lorsque le Seigneur lui montrait quoi faire, puis lui ouvrait des portes, il agissait selon ce que Dieu lui montrait avec les opportunités qu'il avait. Et avec la prière, il faut joindre l'action si nous voulons voir le royaume de Dieu avancer. Vous êtes avec moi ce matin? Hein? Et il a fallu que Néhémie se lève. Il a fallu qu'il se lève, qu'il ose de croire. Oui, il a prié, il a demandé au roi. Il a entrepris le voyage pour aller à Jérusalem, vous savez. Et il a préparé un plan, puis ça s'est fait, vous savez. Le miracle s'est produit. Et la prière ne doit pas être une excuse pour ne pas agir. Êtes-vous avec moi ce matin? Êtes-vous avec moi ce matin? La prière ne doit pas être une excuse lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose. On prie pour quelqu'un qui connaisse le Seigneur, qui vienne au Seigneur. Tu sais, oui, Seigneur. Puis quand le Seigneur nous dit d'aller y parler, puis d'aller le visiter, puis d'aller le témoigner, puis d'aller le voir, faut y aller. Amen. Il faut y aller. Et c'est comme ça que les miracles s'accomplissent vraiment. Et les miracles que Dieu veut accomplir, c'est des miracles qui se font en partenariat avec nous. On prie et on agit. Et c'est ça que nous voyons au travers le livre de Néhémie. Et puis, amen. Moi, je suis béni pour le progrès que nous voyons au Centre Nouvelle Vie. Je suis béni vraiment du progrès spirituel qu'on voit dans l'Église. C'est sûr, il y a le progrès avec le bâtiment qu'on a. Vous savez, ça fait une couple d'années, là, à chaque année, on améliore les choses. On n'a pas fini, par exemple. Là, tu sais, il reste encore des choses, faut pas, on arrête là. Mais je suis béni de voir le progrès qui se fait avec le bâtiment, et spirituellement aussi. Et c'est la façon que Dieu travaille avec son Église. Nous prions, nous osons croire, nous demandons et nous agissons lorsque Dieu. Et Dieu fait des miracles à travers de nous. Puis c'est comme ça dans nos vies aussi. C'est comme ça dans toutes les choses dans notre vie. Et la dernière chose que je veux voir avec vous ce matin concernant une vérité que nous apprenons, que nous pouvons voir dans le livre de Néhémie, c'est que la coopération est essentielle pour la réalisation d'un projet. La coopération est essentielle. On a lu tout à l'heure hein, dans Néhémie du chapitre 3, hein, c'est-à-dire, OK, lui a fait ci, à côté de lui, il y avait lui, 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 à côté de lui. Hein. Tout le monde travaillait ensemble, tout le monde avait sa section, son appointement, puis tout ça, vous savez. On voit que Néhémie, c'était un leader, définitivement un leader. C'était un homme aussi qui travaillait avec les autres. C'était pas un lone ranger, tu sais, c'était pas... Mais il travaillait avec les personnes à côté de lui. Et le travail que Néhémie a fait dans ce projet-là, vous savez, ça ne s'est pas fait sans opposition, certainement. Mais le point que je veux qu'on puisse souligner ici, c'est que, comme dans un projet de rénovation, on a besoin de travailler ensemble avec plusieurs personnes. Aussi, un projet pour bâtir la foi du peuple, pour partager la foi, pour bâtir une église et pour gagner des âmes pour la gloire de Dieu, nous devons saisir l'importance de travailler ensemble, de la coopération les uns les autres dans le corps de Christ. Amen. Nous avons besoin, vous savez, dans l'Église, on a besoin de combattre ensemble pour l'Évangile, de travailler ensemble pour le royaume de Dieu, et on a besoin d'être unis aussi ensemble. Et je remercie le Seigneur pour l'unité qu'il y a au Centre Nouvelle Vie. Amen. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important, vous savez. Si nous pensons que nous allons vaincre l'ennemi dans notre monde, puis que nous allons faire une différence dans notre monde, vous savez, juste par nous autres-mêmes, you know, si nous voulons juste faire notre affaire, tu sais, puis qu'on ne s'intéresse pas de travailler avec les autres personnes autour de nous, notre ennemi est beaucoup plus fort que nous lorsque nous combattons seuls. Mais lorsque nous sommes unis ensemble, vous savez, ça fait toute une différence. Néhémie n'a pas construit les murailles tout seul. Cette année, vous savez, le thème vraiment que j'avais beaucoup sur mon cœur, vous en avez entendu parler, c'est d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous appelle, tous chacun de nous, à être des bons soldats pour Jésus-Christ, pour notre Sauveur, chacun de nous. Mais imaginez-vous, imaginez-vous un soldat qui se dirige au combat, vous savez, à la guerre, avec l'idée de faire la guerre seul, tout seul, contre son ennemi, l'armée qu'il y a devant lui. Hein? Il dit, les autres, ils feront leur affaire, moi, je fais mon affaire. Est-ce que c'est sage? Pas trop sage, hein? Pas trop sage. Hein? Un bon soldat, il comprend l'importance de combattre avec ses compagnons d'œuvre, ses compagnons de combat avec lui. Et un bon soldat de Jésus-Christ dans l'Église, vous savez, il comprend l'importance de l'Église et de l'unité dans l'Église s'il veut réellement voir l'avancement du royaume de Dieu. Notre ennemi est plus fort que nous si nous sommes seuls, mais ensemble et avec Jésus-Christ, nous sommes plus forts que notre ennemi. Et nous pouvons faire une différence dans notre monde. Et je vous dis ceci parce que nous vivons dans une société qui devient de plus en plus individualiste. Hein? Hein? Moi, je fais mes affaires, toi, tu fais des affaires, puis dérange-moi pas. Tu sais? Ça devient beaucoup de plus en plus comme ça. Et l'isolation, l'individualisme, vous savez, ça affaiblit beaucoup la force de n'importe quelle organisation, d'une armée et d'une église aussi. Et c'est pour ça que c'est important de travailler ensemble. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Amen. J'ai besoin du pasteur Fern, puis le pasteur Fern a besoin de moi. Ensemble, on peut faire quelque chose. Amen. Et c'est comme ça, nous avons besoin dans le corps de Christ. Et Néhémie, vraiment, comme avec Néhémie, il y avait besoin de tout le monde, vraiment. Et tout le monde s'est mobilisé pour bâtir ces murailles-là. Et ils ont réussi. Et vous savez, aujourd'hui, Dieu recherche des personnes comme vous et moi. Dieu cherche des personnes qui vont avoir à cœur la gloire et l'honneur de Dieu, des personnes qui vont oser prier et croire, et des personnes qui vont agir avec courage devant l'adversité puis qui seront prêtes d'être mobilisées pour travailler avec les compagnons de combat et de travail aussi, avec les autres autour d'eux. Amen! Et c'est comme ça que nous allons voir le royaume de Dieu avancer. Et ce matin, je termine, et tout à l'heure, je vais inviter Eric puis Robert de venir me rejoindre ici. Mais simplement qu'on puisse se rappeler, et ce matin, oui, un projet de rénovation, c'est pour la gloire de Dieu que nous faisons ce que nous faisons au Centre Nouvelle Vie. Puis je veux vous féliciter pour ça, mais rappelons-nous, la condition des bâtiments qui appartiennent à Dieu ont de la valeur à ses yeux. Vous savez, ça a de la valeur à ses yeux, oui, certainement. La prière et l'action sont très importantes dans tous nos projets. On prie, hein, on se rend compte, puis on prie, tu sais. À un moment donné, c'est OK, sors la pouch, hein? Et merci que le Seigneur donne des dons à des personnes qui sont habiles avec la pouch, puis avec le marteau, puis avec les choses. C'est chacun sa place. On a besoin de tout le monde, tu sais. Et aussi, vraiment, la coopération est essentielle, comme je le dis, pour la réussite de nos projets. Amen. Et Seigneur nous appelle, oui, à être des bons soldats. Travaillons, combattons ensemble pour notre communauté et nos familles. Et je veux juste terminer en disant ceci ce matin, c'est que c'est vrai, vous savez, que lorsque nous parlons de l'Église du Seigneur, nous parlons des personnes. L'Église, c'est les personnes, c'est les enfants de Dieu, c'est nous l'Église. Amen. C'est l'assemblée de ceux qui ont cru en Jésus. Puis c'est vrai, vous savez, que lorsque Jésus va revenir nous chercher, on n'apportera rien avec nous. Ça, c'est vrai, vous savez, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que la Bible nous dit de rechercher des trésors célestes avant de rechercher des trésors terrestres. Vous êtes avec moi? Mais ce que nous voyons dans la Bible, et je veux que ce que nous voyons dans la Bible, vous savez, c'est qu'avec des choses matérielles, nous pouvons amasser des trésors célestes. Et c'est pour ça que les choses matérielles sont importantes aux yeux de Dieu, parce que ce que nous faisons avec nos choses matérielles reflète ce qu'il y a dans notre cœur envers le Seigneur. Ça reflète notre amour pour le Seigneur. Êtes-vous avec moi? Et lorsque nous utilisons nos dons, nos ressources, nos talents pour la gloire de Dieu, nous sommes en train de ramasser des trésors célestes qui vont servir un jour à la gloire de Dieu. Ça glorifie le Seigneur. Et je crois que c'est une vérité qu'il ne faut pas oublier. C'est une vérité qui est très importante. Et le bâtiment ici à Centre Nouvelle Vie a été construit et consacré pour servir à la gloire de Dieu. Et je me souviens, j'étais ici à la dédicace en 1988. Combien de personnes vous étiez ici en 1988 à la dédicace? Oh, amen. Il y en a plusieurs. Je me souviens même, lorsque la première pelletée de terre, je me souviens, c'était dans le coin, là. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là, mais il y avait le pasteur David Sloan-Wild qui avait venu. La première pelletée de terre. Puis je me souviens, on a fait le chemin aussi. Hein? Combien de personnes vous avez brûlé des branches puis des arbres? Roland, tu étais là, hein? On avait coupé ça et on préparait le chemin pour s'en rendre. La rue Grâce, je trouve que c'est un beau nom, rue Grâce. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Amen. Et ce bâtiment a été dédié pour la gloire de Dieu. Puis je veux simplement terminer en vous félicitant de continuer à prendre soin du bâtiment que Dieu vous a donné, en fait, nous a donné, parce que moi, je fais partie, là, tu sais, pour la gloire de Dieu. Et prions, continuons à prier que le Seigneur soit toujours glorifié de plus en plus à travers son Église et qu'il remplisse son Église d'âmes qui vont le connaître pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Je vais inviter Eric et Robert de venir. J'avais demandé de donner un petit témoignage de qu'est-ce qui s'est produit cette semaine ici pour le projet de rénovation. Venez les gars. Et avant de terminer tout à l'heure, nous allons prier puis nous allons reconsacrer en fait le bâtiment au Seigneur. Venez-vous-en. Hey. Vas-y.
Spotlight. Hein?
Sors ta pouche. Là.
Oui. J'aimerais juste dire que c'était un plaisir de travailler avec vous. Et depuis les dernières deux ans, j'avais de plaisir de travailler avec mon ami Eric.
Amen.
Je pense que le projet qu'on a commencé, c'est commencé bien. Parce que le dirigeant a bien planifié les affaires. Et tout était réglé. Et lui, c'est quality control. Quality control. Si on faisait quelque chose de wrong, là, il nous a dit. Il n'a pas peur de nous dire. Et ça a bien été. On a passé deux semaines, on a fait exactement ce qu'on voulait faire en deux semaines, et le Seigneur est avec nous, et C'est maintenant, la vacance est finie. On avait deux semaines de vacances, et la vacance est finie, et maintenant, il faut qu'on travaille.
Oui, je me sens béni, moi, ici, de pouvoir travailler avec Robert. Je peux partager la même chose que lui partage avec moi, mais on travaille, ça fait au-delà d'un an ensemble, quasiment deux ans. Puis, je ne pourrais pas vous demander pour un meilleur partner pour travailler avec. Avant qu'on commence le projet ici, on avait eu une petite rencontre. Il y a des gens qui sont venus, puis, tu sais, comme j'ai communiqué comment busy que j'étais, puis comment est-ce que l'ennemi essayait de m'enlever de ce projet ici. Comment est-ce qu'il me disait que tu n'as pas le temps, tu sais, tu as à faire tes clients, tu fais tes choses. Puis, on a eu une rencontre. J'étais fier de voir qu'il y avait beaucoup de monde, mais le temps avançait. Là, il y a eu, tu sais, des petits moments de déception. J'ai même appelé Pasteur Luc. J'ai dit, je ne sais pas si on va pouvoir le faire dans deux semaines. J'ai dit, je ne sais pas qui, comment que le commitment est avec les gens, puis tout ça. Puis j'ai dit, c'est dur pour moi de ne pas commencer un projet sans voir la structure complète, savoir que ça va tout tomber en place. Je suis tellement organisé dans mes jobs que là, j'avais comme pas de moyens. Robert m'a juste dit, il dit, Eric, fais-toi-en pas. Il dit, Seigneur, ça, in control. Il dit, les Juifs ont eu leur terre promise, ils n'ont même pas eu besoin de travailler pour. Il dit, ça, il dit, worry pas. Fait qu'on on a commencé la première journée, on est arrivé ici, bang, il y avait du monde. Ça a bien été. Mais jour après jour, comme là, des fois, tu avais des visages qui étaient là, qui n'étaient pas là le lendemain ou qui n'étaient pas là la semaine d'après. Ou, t'sais, comme... Mais tout a fonctionné en fonction du Seigneur, parce que c'est lui vraiment qui a coordonné ça. Si vous m'aviez demandé au début de tout si on avait le temps de tout le faire, je le doutais. Je le doutais, mais. Ceux qui sont venus les journées que d'autres n'ont pas venu, ça a remplacé l'effort que ceux pouvaient donner quand ce qui n'était pas là, que du début à la fin. Puis on a fini à 5h15 vendredi soir. C'est comme, c'est vraiment bénissant. J'ai rien manqué. Mes clients n'ont pas été négligés. Puis encore là, j'ai trois cuisines qui sont commencées, mais les comptoirs ont juste été installés cette semaine. Ça fait que j'aurais rien pu faire autre que venir travailler ici pendant deux semaines.
Amen.
Le Seigneur a ouvert la porte pour que je puisse le faire. Mais je l'ai fait avec les membres, avec mon chum ici. Puis ça m'a rapproché beaucoup à l'Église. J'ai appris à connaître des bons souls. Terry nous a fait rire avec ses sandwichs au mort. Tu sais, c'est comme Allison, c'est la même chose. Je veux dire, comme j'ai appris à connaître les caractères des gens, Donna, comment c'est plaisant de travailler avec. Tu sais, Ted, on riait, on pouvait se joker, on était sarcastique de temps en temps, mais. On a ri, on a eu du fun, puis c'était vraiment bénissant, c'était vraiment plaisant. Puis de le faire pour notre communauté, comme notre église, c'est pour notre communauté. So, merci à tout le monde. Vous savez, tous ceux qui sont venus, vous avez venu dans les bons temps. Puis, merci beaucoup.